téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos. Les réseaux sociaux, ils ne font pas de notre enfant.
Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M, ça passe vite, mais ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Le Monde met en ligne dès demain un outil permettant de trier les sources d'informations sur la probité desquelles vous auriez peut-être des doutes. Dans la jungle d'Internet, quels sont donc les sites ? Fiable, peu fiable, pas fiable du tout, démarche salutaire pour les uns par les temps qui courent, police de la pensée pour les autres qui dénoncent la façon dont les grands médias voudraient les faire taire. Bonjour Jérôme Fenoglio.
Bonjour.
Ça va, vous luttez contre la grippe
oui,
et la fièvre.
Contre la grippe, oui, pour l'instant.
Pas seulement contre les fake news.
Exactement. Ouais.
Jérôme Fenoglio, vous êtes le directeur du Monde. Alors en mettant au point des codex, vous avez dû vous poser des questions pratiques, bien sûr, mais aussi théoriques, déontologiques. Qu'est-ce que la fiabilité ? Qu'est-ce que la fiabilité ? Vaste sujet, vous avez 4 heures. Enfin non, vous avez 4 minutes, le temps de parler d'actu et d'écouter Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Récit d'une soirée pressée.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Voilà, Patrick Drahi avait jusqu'en 2019 pour racheter la totalité de BFM TV, RMC Découverte et RMC La Radio. Il n'en détient aujourd'hui que 49%. Eh bien, il vient de faire de la demande au CSA, très officiellement, pour avaler l'ensemble. Au passage, il réclame aussi de pouvoir prendre le contrôle de la petite chaîne numéro 23 sur la TNT. Bref, un groupe audiovisuel pleinement adossé à l'opérateur télécom SFR qui commercialise avec eux de nouveaux canaux comme SFR Sport ou BFM Sport ou BFM Paris et distribue en ligne les journaux qu'il a également acquis comme Libération ou L'Express. Et ce, pile au moment où deux des actionnaires du Monde rachètent le groupe AB, ses chaînes de télé et son catalogue de programmes, pile au moment où se prépare la fusion M6-RTL. Qui a dit, mais vraiment, qui a dit que le mouvement de concentration des médias français allait ralentir en 2017 ? Alors Jérôme Fenoglio, ça tombe bien que vous soyez là ce matin. Deux de vos actionnaires, Xavier Niel et Mathieu Pigas, s'apprêtent à racheter des entités audiovisuelles en Europe. Ça se fait en dehors du groupe Le Monde, mais c'est eux quand même. On apprend aussi que Pierre Berger, votre troisième actionnaire, a déclaré son soutien officiel à Emmanuel Macron. Et pendant ce temps-là, de son côté, la rédaction du Monde sanctuarise l'indépendance éditoriale de ses travaux. Est-ce que vous avez un moyen simple et efficace de nous faire comprendre ce que c'est ? Parce qu'à l'origine, il y a un processus assez technique dans lequel on ne va pas rentrer, mais dans les grandes lignes.
Bah, c'est tout simple. L'indépendance, c'est vraiment d'abord notre valeur. C'est évidemment ce qui fait aujourd'hui l'intérêt d'être journaliste au Monde et d'être lu en tant que journaliste au Monde. Nous avons donc déconnecté tout ce qui protège cette indépendance, tous les mécanismes, tous les verrous qui existaient de notre histoire depuis très longtemps. Nous l'avons déconnecté de notre part au capital. Jusqu'à présent, c'était adossé à une minorité de blocage. Mm-hmm. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est inscrit dans les statuts. Le capital peut varier, peut changer, les proportions de présence des actionnaires peuvent évoluer, mais nous, tout ce qui nous protège, c'est inscrit dans les statuts, et du coup c'est inaliénable, c'est protégé, et en plus c'est sans limite de temps. Donc maintenant, notre indépendance est vraiment pour le coup
voilà,
pérennisée.
On va rappeler que dans son histoire, Le Monde appartenait à ses journalistes, et puis Le Monde en quasi-faillite a été racheté par Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger. Donc quand vous dites nous, c'est ce qui reste de ce noyau-là et de cette histoire-là.
Voilà, c'est ce qui reste de cette histoire-là, c'est non plus effectivement l'indépendance économique. Nous ne sommes pas arrivés à faire vivre un journal de manière autonome, de manière économique. Donc nous nous appuyons aujourd'hui sur un capital privé. Mais ce que nous préservons, c'est l'indépendance de la rédaction. Et celle-là est protégée par des mécanismes, des verrous, mais aussi par notre attitude à chacun. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de risque zéro en termes d'indépendance. Il y a aussi le courage de chacun, il y a aussi l'attitude de chacun face à tout ce qu'on entend. Et une démarche de journalisme, c'est-à-dire une démarche qui cherche à vérifier les faits, une démarche qui est indépendante des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques.
Eh bien, on va en reparler justement dans un instant. Bruno, dimanche soir, vous avez regardé comment les grandes chaînes ont couvert le second tour de la primaire de la gauche et vous avez noté un petit problème de concordance des temps entre la télévision et le Parti Socialiste.
Oui, Sonia, figurez-vous que ces deux-là ne sont plus, mais alors plus du tout, sur le même fuseau horaire pour ce qui concerne la publication des résultats. À ma gauche, le Parti Socialiste qui considère qu'il a la vie devant lui et qu'il peut tranquillement traîner jusqu'à 20h44 pour les annoncer. À ma droite, la télé qui a le feu, la pub et le film du dimanche soir aux fesses et qui brûle donc de nous révéler des chiffres qu'elle connaît déjà, indiscrétion oblige, depuis la fin de l'après-midi. Du coup, on a assisté ce dimanche sur toutes les chaînes à des séquences plus ou moins comiques et plus ou moins explicite. Premier exemple, sur France 3, dès 19h15, soit une heure et demie avant la publication des résultats officiels, s'il vous plaît, en écoutant le duplex de la journaliste qui était tankée au QG de Benoît Hamon, on avait déjà une idée assez précise du résultat.
Je peux vous dire que l'ambiance est plutôt festive, les pyramides de verre se remplissent, les petits fours circulent. Et un DJ et sa platine sont déjà arrivés.
Voilà, une idée très nettement confirmée 30 secondes plus tard par le confrère de cet envoyé spécial qui était lui auprès des supporters de Manuel Valls et auquel Catherine Matoche était pourtant contentée de demander si l'ex-premier ministre était déjà arrivé.
Bonsoir Catherine, non pas encore mais cela ne devrait pas tarder. Je précise que le DJ non plus n'est pas arrivé.
Voilà, merci Jean-Jean, on a bien compris, c'est plié. Alors France 2 a fait sensiblement la même chose. Mel Pompon, Sonia, eh ben je l'ai dégoté sur TF1. Là, la journaliste dépêchée dans le camp Hamon était Valérie Nataf. À 20h10, premier duplex, elle avait décidé d'être studieuse et de ne surtout rien balancer avant l'heure H. Question, dis donc Valérie, il en a fait du chemin le jeune Benoît Hamon, non ?
Oui, Benoît Hamon, c'était un peu l'homme des minorités au PS. Alors sera-t-il ce soir celui qui peut rassembler une majorité d'électeurs de la primaire ? Nous le saurons bientôt.
Voilà, 20h10, suspense, la fille reste droite dans ses bottes, elle ne lâche rien. Et puis, 25 minutes plus tard, elle décide que le suspense, eh ben, y en a marre.
Ici, il n'y a pas beaucoup de suspense, les militants s'embrassent, se congratulent.
Mais, prise de remords, elle ajoute quand même à la fin de son intervention cette petite précision.
Vous entendez les applaudissements derrière moi et pourtant les résultats n'ont pas encore été annoncés.
Bon bah comment vous dire si, hein, Valérie, vous venez de nous les donner depuis une plombe et vous nous les avez balancés parce que vous avez fait comme tout le monde et que vous n'avez pas pu résister à l'envie de nous livrer l'info et de vous dépêcher. Et pourquoi que vous êtes grouillé ? Eh bien parce qu'à 21h tapante, TF1 diffusait son film, ce qui a donné lieu à cette séquence très cocasse. Manuel Valls a été interrompu sans embâge.
Cette gauche qui fait...
Et vous retrouverez plus largement les propos de Manuel Valls dans nos éditions de demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine sur TF1.
Tandis que, tenez-vous bien, le vainqueur, Benoît Hamon, n'a même pas eu droit à la plus petite seconde d'antenne sur TF1 parce qu'il est arrivé trop tard. Alors qu'est-ce que ce petit épisode nous enseigne ? Eh bien, il nous dit deux choses. Un, que les partis doivent désormais aller plus vite pour publier leurs résultats ou tenter d'empêcher scrupuleusement les fuites, faute de quoi leurs primaires ne seront plus un temps fort. Et deux, qu'une élection qui ne réunit que 2 millions de votants, c'est important pour le Parti Socialiste, mais absolument pas majeur pour la télévision.
Merci Bruno.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Mon invité Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, Décodex Kesako.
Décodex est un outil qui va permettre aux lecteurs d'avoir un avis sur la fiabilité sur les sites sur lesquels ils naviguent, sur lesquels ils trouvent des informations. On a vu qu'il y a de plus en plus actuellement de nombreuses circulations d'informations fausses, de propagande, de rumeurs. Ça fait plus d'un an qu'on s'est alerté sur cette question, notamment à travers ce qu'on a vu colporter au moment des attentats en France, et qu'on s'est dit que ça valait le coup d'apporter une aide à nos lecteurs pour différencier ce qui est faux, ce qui est exact, en tout cas ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas.
Alors une aide gratuite, c'est accessible à tout le monde ?
C'est absolument accessible à tout le monde, ce sera disponible sous différentes formes. Il y aura un moteur de recherche sur notre site, il y aura ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une petite fenêtre qui s'ouvre quand vous naviguez sur Firefox ou sur Chrome, et ça vous permettra de savoir et d'avoir des éléments de contexte sur les éléments, sur les informations sur lesquelles vous êtes en train de naviguer.
Alors vous avez répertorié 600 sites pour l'instant en français, quelques-uns en anglais, quelques-uns aussi américains. Vous avez décrété 5 niveaux de fiabilité. Alors, je les donne aux auditeurs. Gris, c'est des petites gommettes. Hein. Elles ont des couleurs comme à l'école primaire. Les collectifs type Wikileaks. Bleu, les sites parodiques. Gorafi, Nordpress, etc. Rouge, les sites pas fiables du tout. Complotistes, trompeurs. Orange, peu fiable ou très orienté. Vert, très fiable. Qu'est-ce que la fiabilité ?
Plutôt fiable. Attention, plutôt fiable.
Il n'y a pas de très fiable.
Il n'y a pas de fiabilité à 100%. Les plus grands médias dont nous faisons partie
se trompent.
Peuvent commettre des erreurs. Le plus important, c'est aussi de savoir les reconnaître, de ne pas dire nous sommes infaillibles. De reconnaître ces erreurs, de savoir les écrire et de savoir corriger. C'est très important. Donc c'est plutôt fiable.
Donc il y a plutôt fiable. Mais il n'y a pas fiable du tout.
Oui, il y a évidemment aujourd'hui, et on l'a vu, de plus en plus se développer développer des sites qui font semblant de faire du journalisme, c'est-à-dire en gros qui ont la présentation de sites journalistiques, mais qui diffusent des infos fausses de A à Z.
Alors c'est ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire qu'on a tendance en français à les traduire par fausses informations. En réalité, c'est pas tout à fait une fausse information, parce que oui, c'est une information erronée, mais qui reprend tous les codes graphiques et visuels, la typographie, etc., de sites tout à fait répertoriés.
Oui, exactement, ce sont des sites faussaires, au fond, qui détournent les codes du journalisme. Et donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, il est difficile de faire la part des choses, de savoir sur quoi on est. Donc on s'est mis du point de vue d'un internaute qui circule aujourd'hui sur un réseau social, au hasard on va pas citer de nom, mais sur un réseau social et qui passe d'infos en infos sur Facebook, oui par exemple, et qui d'un coup se retrouve sur des articles qui proviennent de sources très différentes. Comment peut-il savoir quel est le degré de fiabilité des sites sur lesquels il navigue ? Eh bien, on apporte cette aide-là sous
donc,
forme
Jérôme
d'une petite
fenêtre. On est bien d'accord que vous vous adressez à une population qui est déjà méfiante. Méfiante au sens où elle est à l'affût, elle veut savoir, donc une population éduquée, une population qui cherche à vérifier, donc une population qui a déjà conscience que les fake news ça existe et que ça peut être dangereux en termes d'information.
Oui, ce débat existe et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça, qui se rendent compte aussi qu'eux-mêmes deviennent diffuseurs, parce que c'est aussi ce qui se passe par
ils
les
partagent.
Réseaux sociaux. Ils partagent. Ouais. Donc si on veut savoir aujourd'hui quelle est la fiabilité de ce qu'on lit, mais aussi de ce qu'on partage, puisque maintenant on est aussi diffuseur, alors effectivement, on peut avoir besoin d'aide pour, au début, avoir les bons réflexes, savoir reconnaître une fausse photo d'une vraie photo et avoir tous ces éléments de contexte que nous apporterons.
D'ailleurs, vous avez une fonctionnalité sur Facebook où un robot répond automatiquement.
Un robot sur la messagerie de Facebook, mais Messenger permettra aussi d'avoir un échange pour voir ce qu'il en est des sites sur lesquels on va. Oui.
Alors, la vraie question, c'est comment s'adresser à ceux qui ont rompu le lien, Jérôme Fenoglio, c'est-à-dire à ceux qui pensent que tous les médias mentent. Je vous fais écouter une déclaration d'Alain Soral, elle date de 2012.
Les Français ne sont pas si bêtes que ça, puisqu'ils ne lisent plus les journaux. Par contre, dès qu'un bouquin sort sur Le Monde, ou même mon bouquin, d'un seul coup, il y a des centaines de milliers de gens qui l'achètent. Donc ça veut dire que les Français, en fait, sont avides de vérité et d'intelligence, et savent que cette vérité et cette intelligence n'est plus dans les médias. Mais ça veut dire qu'on est dans une situation un peu presque d'un pays qui vivrait sous une occupation, avec une Pravda, c'est-à-dire un média officiel auquel personne ne croit. Et on s'est beaucoup moqué de la défunte URSS, mais en fait, Le Monde et la Pravda, on peut poursuivre l'analogie assez loin. Hein.
Alors, sans aller aussi loin dans l'analogie, il y a quand même toute une part, mais vraiment une part non négligeable de la population française qui a rompu ce lien, qui ne croit plus dans les médias, qui estime qu'ils sont tous menteurs, vous, nous et tous les autres.
Alors là, vous avez fait écouter un théoricien à l'extrême droite. Oui. C'est simple, hein, l'enjeu, il est simple. C'est de substituer à ce travail patient, ingrat, d'aller tous les jours vérifier des faits. C'est ça, hein, les pratiques du journalisme. C'est vérifier, c'est citer ses sources, c'est corriger ses erreurs. Cette pratique du journalisme, à la place de ça, et c'est vrai aussi de Donald Trump, ils veulent substituer des faits, d'autres faits. Des faits qui vont dans le sens de leur doctrine. Donc évidemment, du coup, il y a une critique frontale par rapport à cette pratique-là qui est la nôtre, qui est celle du journalisme. Nous, on défend une seule chose. On dit que le débat public, les opinions, les avis de chacun ont besoin de se bâtir sur des faits. Des faits qui peuvent se vérifier. Après, on peut en faire les interprétations qu'on veut, mais le débat public, il se construit sur des faits. C'est ça que nous défendons.
Alors,
le
journalisme, c'est ça. Alors, est-ce que ça signifie, Jérôme Fenoglio, qu'un site d'extrême droite est peu fiable ou pas fiable du tout ?
Un site d'extrême droite peut reprendre des vraies informations, ou alors peut en inventer d'autres, peut colporter de fausses informations, peut donner des visions extrêmement tendancieuses de faits. En tout cas, il peut avoir des pratiques qui, tout en prenant les aspects du journalisme, s'en éloigne dans la réalité de ce qu'il fait.
Fiabilité égale objectivité ?
Fiabilité égale travail sur les faits. Ensuite, l'objectivité à 100%, chacun peut avoir un avis sur l'actualité, l'objectivité à 100% est un objectif que personne ne peut atteindre. Mais les faits donnés avec des sources, avec des vérifications, avec le travail du contradictoire aussi, qui est très important, c'est-à-dire d'aller voir des personnes sur lesquelles on enquête, etc. Donc toutes ces pratiques du journalisme, oui, elles contribuent à amener dans le débat public cette base-là de la discussion.
Alors,
qui sont les faits.
Il y a la gommette verte, rouge, bleu, grise, etc. Est-ce qu'il y a des éléments d'explication qui vont avec. Je vous donne un exemple. Un site pro-Trump, un site pro-Poutine, un site pro-Erdogan, un relais d'extrême droite, etc., etc., peuvent être des sources d'informations tout à fait fiables à partir du moment où on sait qui parle. Est-ce que, en classant les sites, vous dites qui parle ?
Oui, nous décrivons, nous disons exactement de quel point de vue les gens parlent, ce qu'ils cherchent à faire, quelle est leur pratique, est-ce que c'est du journalisme, est-ce que c'est du faux journalisme, est-ce que c'est de l'opinion ? Il y a aussi, nous essaierons de le différencier sur tous les sites, le commentaire d'un côté, du travail sur les faits de l'autre. Cette séparation-là existe et elle est très importante. Et donc, nous donnerons tous ces éléments de contexte. Nous avons aussi tout un travail avec des documents qui permettront de se faire un avis, des documents pédagogiques, on va dire. Nous allons aussi adosser à ce travail sur le décodexte aussi des prises de parole dans des établissements scolaires, etc., pour apprendre qu'est-ce que c'est que l'information, qu'est-ce que c'est qu'un fait, et comment on peut, avec des gestes très simples, l'internet peut colporter le pire, mais il permet aussi
donc,
le meilleur, des moyens de vérification tout bêtes.
De pédagogie, en fait,
des
à disposition
de pédagogie,
des profs,
voilà.
Des parents, ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que évoquer, c'est tromper, Jérôme Fenoglio? Est-ce que évoquer, c'est mentir? Par exemple, nous, on a beaucoup cherché hier, et on a trouvé énormément de sites, au moment de la campagne d'Hillary Clinton, qui présentaient l'information de la façon suivante. Alors, une photo d'Hillary Clinton avec un membre de la famille Rockefeller. Et puis, un document qui attiste que son mari, Bill Clinton, a fait partie d'un groupe nommé Bilderberg. Et puis, un mail siglé Wikileaks qui prouve qu'elle a été financée par la fondation Rothschild. Et puis, rien. Au lecteur de faire le lien et au lecteur d'avoir dans sa tête des signaux qui s'allument, complot judéo-sioniste, etc. Les juifs dirigent le monde, enfin bref, tout ce qu'on peut lire sur les sites complotistes. Mais ça n'est pas écrit, jamais, noir sur blanc. Et c'est là où on voit à quel point c'est difficile de mettre la limite.
Les différents endroits sur lesquels vous avez attrapé ces différents types d'informations, nous nous dirons d'où ils viennent, quelle est leur nature, quel rapport ils ont avec une sphère politique ou une autre. Donc nous donnerons tous les éléments de contexte. Contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le son que vous avez passé, nous ne cherchons absolument pas à étouffer le débat. Nous cherchons au contraire à le vivifier, à le faire vivre le débat, à le poser sur de bonnes bases. Donc c'est pas du tout évidemment un mécanisme de censure. D'abord, nous n'obligeons personne à avoir recours à notre aide, nous proposons de l'aide pour que le débat s'établisse sur des bonnes bases.
Alors c'est exactement ce que disent vos détracteurs, hein, parce que là pour le coup, ils sont très très remontés. Hein. On dit que vous décidez à la place des citoyens, que vous empêchez le lecteur de faire son avis, que c'est le mur de la pensée unique, la police de la pensée dans tout ce qu'elle a finalement de plus redoutable, qui s'immisce jusque dans vos lectures sur Internet.
Voilà, nous n'imposons rien à personne, on peut avoir recours à cette aide ou pas, mais ce que nous amenons justement, c'est une pratique critique du journalisme, c'est une pratique critique de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, donc nous contribuons plutôt au développement de l'esprit critique. Si l'on ne croit plus au journalisme, alors effectivement on peut ne plus lire d'écrits qui sont produits par des pratiques journalistiques. C'est ce que préconise après tout, d'une certaine manière, un certain nombre, vous en avez entendu un, où c'est un peu ce que dit aussi malheureusement le président des États-Unis quand il dit qu'aujourd'hui,
la presse des États-Unis.
Quand il dit aujourd'hui que la presse est l'ennemi. Oui, la presse est l'ennemi, de toute une série de personnes qui aimeraient substituer à ce travail sur les faits un travail qui, lui, pour le coup, étoufferait cette pratique journalistique et qui serait celui d'imposer ses propres idées, sa propre doctrine et d'en faire une
Merci,
pensée unique.
Merci Jérôme Fenoglio. Décodex est mis en ligne demain matin sur
jeudi.
Le site du Monde. Jeudi.
Ah, vous l'avez reculé. On a un tout petit décalage,
ah, oui.
Ce sera jeudi.
D'accord, ce sera jeudi, alors du coup, on vous le redira demain. Bonjour Ali Rebéi.